Vous êtes sur RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h45, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc Valérie Rabault, députée du Tarn-et-Garonne et présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale.
Bienvenue sur RTL. Bonjour Valérie. Bonjour. Rabault. Vous êtes à la manœuvre depuis longtemps contre la privatisation d'Aéroports de Paris qui sera votée dans le cadre de la loi Pacte cet après-midi. Mardi, vous avez réuni suffisamment de députés pour déclencher une demande de référendum. On verra tout à l'heure si ça peut aboutir ou pas. Mais qu'est-ce que vous répondez à Bruno Le Maire qui hier l'Assemblée, vous y étiez, a dénoncé un équipage de circonstances.
Oui, enfin, Bruno Le Maire est assez mal placé, parce que dans le genre équipage de circonstances, lui, depuis mai 2017, il a trahi son camp pour aller rejoindre un gouvernement qui n'est soi-disant ni de droite ni de gauche. Donc nous, on n'a pas fait le dixième de ce qu'il a fait. Alors je l'invite à un petit peu regarder sa propre prestation.
Mais le gouvernement considère que c'est un front commun de l'ancien monde contre les partisans du nouveau qui veulent bouger, qui sont dans le mouvement, eux, face à l'immobilisme que vous lui opposez.
Oui, c'est un front commun qui applique la Constitution, c'est un front commun qui écoute les citoyens, c'est un front commun qui se réunit pour dire non à la privatisation d'ADP. Chacun garde sa couleur politique, les républicains, les socialistes, les communistes. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus.
Il n'y a pas d'arrière-pensée politique.
Pas d'ambiguïté là-dessus.
Il n'y a pas d'arrière-pensée politique.
Pas d'arrière-pensée politique. Il y a un objectif commun. Un objectif commun, c'est empêcher la privatisation d'ADP. Et si on y est arrivé, c'est parce que depuis 9 mois, pendant les discussions parlementaires, il y a eu cette expression de refus d'ADP. Seule La République En Marche et le MoDem sont favorables à cette privatisation. Les autres groupes sont majoritairement défavorables à cette privatisation. Et ce qui a été extrêmement intéressant, et malheureusement peut-être peu noté, c'est que tout le monde a utilisé les mêmes arguments. Donc quand vous avez des arguments, les mêmes arguments qui sont portés par les Républicains, par la gauche, ça veut dire qu'il y a une vraie volonté, que cette privatisation ne se fasse pas.
Vous pouvez nous faire croire quand même, je parle d'arrière-pensée politique, qu'il n'y a pas derrière une manœuvre aussi très motivante, sans doute pour vous, les uns et les autres, anti-Macron, que ce n'est pas finalement l'ingrédient qui a fait monter la mayonnaise, qui a permis cet alliage inédit.
Non mais, je vous dis non. Je vous dis non parce que pour que le référendum d'initiative partagée réunisse 185 signatures... Étant donné la configuration actuelle et de l'Assemblée nationale et du Sénat, il faut qu'on ait la droite et le centre-droit. Et celui qui a été vraiment le pilier, le moteur dans cette affaire, c'est Gilles Carrez. Et bien Gilles Carrez,
de l'Assemblée nationale.
Vous le connaissez
LR.
Vous le connaissez bien, vous ne pourrez pas l'accuser de faire de la politique politicienne. Il est vraiment sur le fond, il est député depuis 20 ans.
C'est votre garant, c'est votre alibi politique.
C'est pas mon alibi politique, là-dessus il a été un vrai moteur pour que cette initiative puisse aboutir.
Alors après cet hommage à Gilles Carrez, sur le fond Valérie Rabault, on a l'impression que les élus réagissent comme si on allait privatiser la police et l'armée dans cette affaire. Pas du tout.
Non. Mais personne n'a jamais dit ça. Mais
on parle de souveraineté, de sécurité en danger, on a bien entendu cet argument.
En Europe, il y a en gros, sous modo, 500 aéroports. Hormis le Royaume-Uni, le Portugal et la Roumanie, tous les autres pays font en sorte que la puissance publique soit majoritaire dans leurs grands aéroports. Vous prenez Hambourg, vous prenez Berlin, vous prenez Francfort, vous prenez Madrid. C'est la ville, la région ou l'État qui est l'actionnaire majoritaire. La France, quand on regarde ADP, c'est le deuxième plus gros aéroport. Vous voudriez donner les clés de cet aéroport, c'est-à-dire l'entrée de Paris, à un acteur privé? Nous, on dit non.
Mais pourquoi pas? Non, mais la question, est-ce que l'État a vocation à gérer et à vendre des bonbons et des alcools, par exemple, puisqu'une des principales activités des aéroports de Paris, c'est quand même le duty-free. Qu'est-ce que l'État stratège à avoir là-dedans?
Là-dedans, que vous privatisez les boutiques, moi, ça ne me dérange pas. Quand vous êtes un acteur, que vous décidiez de quelles sont les lignes qui atterrissent à quel moment à Paris, comment on organise le territoire.
Pourquoi l'État aurait à négocier?
Parce que c'est l'aménagement du territoire. Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni. Heathrow, il reste combien de lignes intérieures à votre avis? Combien? 10. C'est ça qu'on veut? On veut que depuis Roissy ou depuis Orly, on n'ait plus de desserte vers Toulouse, de desserte vers Bordeaux? Mais c'est ça la vraie question, c'est l'aménagement.
Mais depuis que Lyon a été privatisé par les socialistes, par vous, sous François Hollande, est-ce qu'il y a eu moins de liaisons? Est-ce qu'il y a une dégradation du service?
Vous ne pouvez pas comparer Lyon au deuxième aéroport que constitue Aéroport de Paris, qui est un aéroport international. On n'est pas totalement dans la même logique. Mmh. Et si vous prenez une autre privatisation qui, pour le coup, a été ratée de chez ratée, c'est celle de Toulouse, que je connais bien, parce que je suis de Montauban, et donc je prends l'aéroport, l'avion à Toulouse, qui est ratée de chez ratée.
Mais ça, c'est dépend de l'acheteur auquel on s'adresse. Quand Lyon, c'est un aéroport qui offre de meilleurs services depuis que vous, les socialistes, vous l'avez privatisé. Toulouse, c'est effectivement, François Langlais nous l'avait encore raconté la semaine dernière, un aéroport qui dysfonctionne peut-être parce qu'il a été vendu par des Chinois. Rien n'empêche l'État de faire en sorte que l'acheteur effectivement soit le plus approprié à assurer le service. Mais ça n'empêche pas la privatisation.
Mais je vous pose la question. Vous prenez Toulouse. Quand l'État signe un pacte d'actionnaires avec les investisseurs chinois qui s'engagent à voter comme eux, vous croyez que c'est du rôle de l'État de se mettre dans la main des décisions d'actionnaires privés chinois ? Donc on a vu un exemple foireux sur Toulouse et sur Aéroport de Paris qui est un aéroport international. Vous ne pouvez pas comparer des choses qui ne sont pas comparables entre Lyon...
C'est une question de Lyon, dimension, alors.
Mais il y a une question de dimension. Il y a une question de... Quand on arrive en France, on arrive... Souvent, les vols internationaux atterrissent à Roissy. On veut pouvoir avoir une question d'aménagement du territoire.
Est-ce que l'État ne doit pas se concentrer sur les missions sur lesquelles qu'il est le seul à pouvoir remplir le service public, encore une fois, qu'est-ce que l'État a à faire avec à être propriétaire de plus de 50% d'un grand aéroport ? Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire, encore une fois, compte tenu des exigences qu'on a encore vues à l'occasion des Gilets jaunes par rapport au service public, qui se concentre sur ses missions ?
Mais d'accord, mais là c'est pas... Il y a l'État, là l'État est actionnaire. C'est-à-dire qu'il a la décision en termes d'aménagement, en termes de foncier. Le foncier, c'est la propriété des Français.
Il reste le propriétaire du sol.
Du sol, mais vous avez concession pendant 70 ans. Combien il y a de concessions de 70 ans en Europe ? Combien il y en a ? Il y en a 3% qui ont plus de 50 ans. Et là, on fait le saut dans l'inconnu en voulant donner les clés à un investisseur privé pendant 70 ans. C'est irresponsable. Ce que disent les Gilets jaunes ? Les Gilets jaunes critiquent l'impuissance de l'État quand vous discutez avec eux. Eh bien là, c'est une manifestation de l'impuissance.
C'est une erreur
de l'impuissance. C'est une énorme erreur du gouvernement. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Pour espérer récupérer 10 milliards d'euros, pour désendetter le pays, pour éviter uniquement que la dette publique atteigne 100% du PIB.
Il n'y aura pas l'innovation ? Ces 10 milliards, ils ne seront pas directement investis pour l'innovation ?
Non, non. Ils seront investis dans des obligations d'État pour baisser la dette publique.
Donc ça, vous en avez la certitude ?
Ah, mais j'en ai la certitude. Je l'affirme parce qu'il l'a dit à l'Assemblée nationale.
Et est-ce qu'il vous semble, le gouvernement, Bruno Le Maire, déstabilisé par votre opération ? Est-ce que l'opération, d'ailleurs, est plombée, à votre avis ?
Il faut lui poser la question.
Et vous ?
Il faut lui poser la question. Oui. Nous, dans l'opération, la démarche, on l'amènera jusqu'au bout.
Mais vous êtes sûr de ça ? Il y a un constitutionnaliste ce matin dans les colonnes du Parisien, M. Derosier, qui estime que ce sera très compliqué quand même d'aller jusqu'au bout du bout.
On ne dit pas que ce n'est pas compliqué. On dit juste qu'on est motivé pour mener la démarche jusqu'au bout.
Et si jamais il y avait un référendum, Valérie Rabault, et que les Français répondaient non à la privatisation, est-ce qu'Emmanuel Macron devrait quitter son siège ?
Mais non, mais absolument pas. Emmanuel Macron a été élu pour 5 ans, il faut que les institutions fonctionnent, il est président de la République pour 5 ans, et moi je ne vois pas en quoi l'éventuel résultat sur un éventuel référendum devrait le pousser à démissionner, c'est pas vrai.
Je vote toujours pour les socialistes, encore faut-il qu'il y en ait. Cette phrase cinglante, elle ne vous a pas échappé ?
Non.
Elle est signée ?
François Hollande.
Ça vous aide beaucoup, ça, pour les Européennes ?
C'est pas très malin.
Ouais. Qu'est-ce que vous lui dites ? Quand vous entendez ça sortir de la bouche de votre ancien président, qu'est-ce que vous vous dites ?
Je lui dis rien.
Voilà. Vous dites rien ?
Rien.
Ça vous inspire ? Rien. C'est pas beaucoup. Raphaël Glucksmann n'est pas très aidé, quand même, par lui, et aussi par certains cadres du parti, comme Patrick Kanner, le sénateur. S'il est élu, dit-il, donc on rappelle que Glucksmann est la tête de liste aux Européennes, derrière laquelle s'est rangé le Parti Socialiste. S'il est élu, c'est grâce aux forces du PS. Sous-entendu, lui, il ne nous apporte rien. Comment doper les chances de votre candidat quand on entend des phrases pareilles ? Il est à 5,5% dans les sondages.
Non, mais les sondages ne sont pas très bons pour le Parti Socialiste et évidemment pour la tête de liste. Ce qu'il faut, c'est aussi, je crois, regarder un peu ce qui se passe dans le reste de l'Europe. Parce que là, on parle d'une élection européenne. Et quand on regarde les sondages qui ont été publiés il y a une semaine sur la projection des sièges au Parlement européen, il y a deux groupes qui dépassent 100 députés. la droite et nous. Quand je dis nous, c'est le groupe qui s'appelle SED, Socialist and Democrats. Eh bien, c'est cette force-là. Raphaël Glucksmann et l'ensemble de ses colistiers n'iront pas siéger dans un petit groupe, c'est un grand groupe qui a la capacité de négocier. Ça, ce sont les projections qui ont été publiées la semaine dernière par le Parlement européen. Donc moi, j'ai envie de dire aux Français, si vous voulez vraiment un vote utile, votez Glucksmann.
Merci beaucoup Valérie Rabault. La loi anti-casseur a été promulguée ce matin au journal officiel.
Avec un article en moins.
Avec un article en moins, celui qui a été censuré. C'est la logique parlementaire. Merci à vous.
Merci à vous.
Bonne journée.
Et l'intégralité de l'entretien, comme chaque jour, est à retrouver sur le site rtl.fr.